Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris et très bonne année à vous tous. C'est la 30e année de nos conférences, ou la 31e, si on fête les 30 ans, c'est que c'est la 31e, non ? Année de nos conférences grand public. Enfin, ça fait beaucoup d'années qu'on organise des conférences une fois par mois et on est content que ça continue. Même si en ce moment on a des conditions un petit peu moins agréables que d'habitude, mais notre amphithéâtre est en réfection, donc en septembre prochain, en principe, l'amphithéâtre sera tout beau, tout neuf pour vous accueillir plus nombreux. En attendant, on espère avoir davantage de monde sur YouTube et un petit peu moins de monde dans cette salle, mais c'est quand même très bien de voir la salle remplie. Les conférences à venir d'abord. Donc mardi 4 février, ce sera Patrick Peter, qui a été directeur de l'IAP pendant l'année 2024. Et nous avons toujours invité le directeur ou la directrice, puisque maintenant nous avons une directrice, à venir donner une conférence pendant son mandat. Comme il a eu un mandat très court, le temps qu'on arrive à trouver une date, finalement ce sera en février, mais ce n'est pas grave. Donc il nous parlera de l'univers dans tous ses états quantiques. Et puis le mardi 4 mars, ce sera notre collègue Laurent Lamy qui parlera des aurores et des planètes, voyage dans le monde invisible des magnétosphères. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir James Lequeux. James Lequeux a fait sa carrière à l'Observatoire de Paris. Il a aussi été directeur de l'Observatoire de Marseille pendant 5 ans. Et puis, il a été, et moi c'est surtout sous cet aspect-là que je l'ai connu, rédacteur en chef de la revue Astronomy and Astrophysics pendant 15 ans. C'est la revue où la plupart des astronomes travaillant en France publient, et des astronomes européens en général, mis à part la Grande-Bretagne, qui fait toujours les choses un peu différemment. L'éditeur en chef de AEA, pour nous, ça a toujours été quelqu'un de très important, surtout quand on était tout petit, tout jeune. Il est retraité depuis fort longtemps, je ne vous dirai pas combien d'années, il le dira s'il le souhaite, mais évidemment il ne s'est pas du tout arrêté. Alors il a arrêté la partie vraiment recherche sur la radioastronomie et l'infrarouge à laquelle il avait consacré sa carrière, et il s'est tourné vers l'histoire des sciences et de l'astronomie et la vulgarisation. Il a écrit entre 15 et 20 livres. Il ne m'a même pas donné le nombre exact, mais il y en a beaucoup. Et en particulier, ce soir, il a apporté aussi un livre qu'il a traduit de l'anglais, qui s'appelle Nicolas-Louis de Lacaille, astronome et géodésien. Et donc, c'est en lisant le livre original en anglais de Jan Glas, astronome d'Afrique du Sud, qu'il a eu envie de le traduire, ce livre, et d'apprendre des choses sur Lacaille. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui, comme moi, ne savent quasiment rien sur Lacaille, eh bien, nous allons avoir une heure pour apprendre tout sur Lacaille et ensuite poser des questions. Donc, merci beaucoup, James, d'être venu.
Eh bien, Florence a dit ce que je voulais vous dire au début, c'est que l'histoire, je ne connaissais pratiquement rien sur Lacaille avant d'avoir lu et puis traduit ce livre. Et c'est pourtant quelqu'un d'extrêmement intéressant, comme j'espère que vous en serez convaincu après cette conférence. Alors, c'est un homme qui est né dans les Ardennes en 1713. Il a fait des études de théologie, mais ça l'ennuyait très fort, et il préférait les mathématiques et l'astronomie, et il a appris tout ce qu'il pouvait par lui-même. Et d'ailleurs, il n'a jamais été ordonné prêtre, il était simplement ce qu'on appelle diacre, et les diacres, ils avaient le titre d'abbé. Alors abbé, ça ne veut pas dire qu'on dirige une abbaye, hein. C'était le titre qu'on donnait en général aux ecclésiastiques qui n'avaient pas été ordonnés prêtres encore. Alors, il y en a beaucoup au XVIIIe siècle, hein, des abbés. Bon, Donc, il est entré à l'Observatoire de Paris en 1732, donc il avait 19 ans, vous voyez. Et la première partie de sa vie, ça a été de la géodésie, c'est-à-dire des mesures de distance sur la Terre pour faire des cartes, etc. Alors, il a été nommé professeur de mathématiques donc au Collège Mazarin. Alors, le Collège Mazarin, c'était un des grands établissements d'enseignement supérieur à Paris au XVIIIe siècle, et il était dans le palais de l'Institut, dont vous avez une gravure ancienne du palais de l'Institut. Alors, le palais de l'Institut va jouer un gros rôle parce qu'on lui a permis d'installer son observatoire derrière la coupole. On n'a pas d'image de cet observatoire, malheureusement, mais on sait qu'il se trouvait derrière la coupole, et c'était un des quelques... Il y avait plusieurs observatoires privés à Paris, comme celui de La Caille, et c'était ce qu'on y faisait était plutôt de meilleure qualité que ce qu'on faisait à l'Observatoire de Paris. C'est assez surprenant, mais... Par exemple, vous avez le Bonnier avait un observatoire important, de Lille aussi, et puis aussi Messier qui avait son observatoire privé qui se trouvait où est actuellement le musée du Moyen-Âge, en face de la Sorbonne. Vous voyez. Donc Messier avait son observatoire privé où il a découvert un grand nombre d'objets que tous les astronomes amateurs connaissent très bien. Voilà. Alors donc, La Caille a commencé par la géodésie. Alors c'est une histoire assez compliquée. On a commencé à faire des mesures de la Terre, en fait, dès le XVIe siècle. Et au XVIIe siècle, ça a été une des activités principales des astronomes. Les astronomes faisaient de l'astronomie, mais ils faisaient aussi de la géodésie, ils faisaient des mesures sur la Terre. Et notamment Picard, qui était l'abbé Picard, qui était le spécialiste à l'Observatoire de Paris à la fin du XVIIe siècle, a fait une grande mesure du méridien, de l'arc de méridien passant par Paris, de Dunkerque jusqu'à en fait Barcelone, les environs de Barcelone. Alors c'était des mesures assez pénibles. Il fallait d'abord mesurer une base avec des règles, et puis à partir de ces bases, on mesurait des angles, on faisait des triangles et on mesurait des angles. Ce qui donnait la longueur des côtés du triangle, puis on recommençait, on faisait un autre triangle à partir de celui-là, ça s'appelle la triangulation. Alors c'était une opération très longue. Hein. Picard a mis pratiquement un an à faire cette mesure du méridien. Et alors, malheureusement, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Et si bien qu'on a cru au début du 8e siècle, que la Terre était allongée et n'était pas comme un ballon de rugby à la suite de cette mesure. Alors, ça a posé beaucoup de problèmes parce que Newton avait prédit que la Terre devait être aplatie, comme elle l'est réellement d'ailleurs. La Terre est réellement légèrement aplatie. Alors, ça a posé des tas de problèmes, comme vous pouvez imaginer. Il y a eu des disputes. Chacun tenait sur ses positions. Et finalement, l'Académie des sciences a décidé qu'il fallait régler le problème et faire des mesures à différentes latitudes, c'est-à-dire à des latitudes très élevées, vous voyez, près du pôle et près de l'équateur pour régler le problème. Alors on a envoyé une expédition en Laponie, pour mesurer donc aux latitudes élevées, et une autre expédition au Pérou, plus exactement, c'est ce que c'était dans l'équateur actuel, mais on appelait ça le Pérou. Mais c'était en fait dans l'équateur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez des verticales ici, l'angle entre les verticales, je l'appelle alpha. Ici, c'est la même chose, je prends le même angle alpha, vous voyez. Alors, les verticales, ici, elles se rencontrent loin du centre. Là, c'est de l'autre côté du centre. Quand c'est à... Et alors, quand vous mesurez ces longueurs, vous voyez que la longueur correspondant au même angle alpha, près de l'équateur, est plus petite qu'au pôle. Alors, c'est bien ce qu'ils ont trouvé. C'est bien ce qu'ils ont trouvé. Donc, on a conclu que la Terre était bien aplatie comme l'avait prévu Newton. Pour la physique est assez simple. Si supposez que la Terre soit un petit peu molle, si vous faites tourner une sphère un peu molle, la force centrifuge va faire qu'elle va s'aplatir. C'est bien ce qui est arrivé à la Terre du temps où elle était encore un peu assez fluide, peu après sa formation. Voilà. Pour être absolument sûr, l'Académie des sciences a décidé qu'il fallait encore mesurer le méridien. On l'a mesuré 4 fois, le méridien de Paris, depuis Dunkerque jusqu'à Perpignan, on l'a même prolongé jusqu'à Barcelone. Et alors, ça a été fait par... Le Cassini numéro 2, parce que vous avez il y a 4 Cassini qui se sont succédés à la direction de l'Observatoire de Paris. Celui qui a fait ce travail, c'était le numéro 2. Et le numéro 2 était. Il a confié à la CAI pratiquement tous les calculs. Et puis il a fait une grande partie des travaux d'observation. Mais Cassini, c'est le troisième Cassini, Cassini de Turi. Il a signé seul l'article présentant ses résultats. Alors Lacaille n'était pas extrêmement content, vous voyez, comme vous pouvez imaginer. Voilà. Mais c'était, malheureusement, ça se faisait à l'époque, mais ça se fait encore quelques fois maintenant. Hein. Voilà. Alors au cours de ces mesures de la Terre, ils ont eu l'idée... Alors, on ne sait pas si c'est Cassini-Turi ou Lacaille qui a eu cette idée, de faire une mesure d'un arc de parallèle, cette fois-ci. Et alors, ils ont choisi un arc de parallèle au niveau de la Méditerranée, vous voyez, entre, disons, l'Hérault et Aix-en-Provence. Alors, comment a été faite la mesure? D'abord, ils ont mesuré sur le terrain la longueur, toutes ces longueurs qui sont indiquées là, vous voyez. Et ensuite, ils ont voulu déterminer la longitude de deux ans, de la longitude de cet arc. En fait, la longitude entre la montagne, le Mont Saint-Clair à 7 et la montagne Sainte-Victoire en haut. Alors, Lacaille se trouvait sur la montagne Sainte-Victoire. Cassini se trouvait à 7. Ils avaient chacun un télescope, une lunette méridienne pour mesurer le temps local. Et on a fait une grande explosion sur la terrasse de l'église des Saintes-Maries de la Mer, qu'on voit aussi bien du Mont Saint-Clair que de là. Donc, on a eu un événement simultané aux deux endroits, et on a mesuré la différence de temps entre celui-ci, là et là, et cette différence de temps, c'est la longitude. Voilà. Alors, c'est la première fois, apparemment, qu'on a utilisé ces signaux, c'est ce qu'on appelait les signaux de feu, c'est-à-dire on faisait exploser une quantité de poudre assez importante, de manière à avoir un signal lumineux très, très intense. Bon, alors, Lacaille a fonctionné, a fait ça. Et il suffit que, quand on compare la longueur et la différence de longitude, quand on connaît la longueur et la différence de longitude, en comparant avec les arcs de méridien, on peut en déduire que la Terre est aplatie. Ils ont trouvé que la Terre était aplatie comme ça. Donc, à la limite, ce n'était pas la peine d'envoyer une expédition en Daponie et l'autre à l'équateur pour faire ça. Vous voyez, c'était beaucoup plus astucieux. Mais c'était trop tard. Les expéditions en Laponie et en Équateur avaient déjà eu lieu. Bon, alors ça, c'est la première partie de la vie de la caille, vous voyez. C'est de la géodésie. On y reviendra tout à l'heure. Et maintenant, on va plutôt passer à l'astronomie proprement dite. Alors, l'Académie des sciences, qui trouvait que la caille était très astucieux, l'a envoyé en Afrique du Sud pour explorer le ciel austral, qui était finalement très mal connu. Parce que qu'est-ce qu'on connaissait du ciel austral ? Ben, on connaissait ce que ont raconté les navigateurs, portugais en particulier, ou hollandais, qui allaient jusqu'aux colonies dans l'Indonésie, etc., en passant par l'Afrique du Sud. Donc, ils voyaient bien les étoiles du ciel austral. Certaines leur servaient de repère, les autres, ça ne les intéressait pas particulièrement. Donc, finalement, le ciel austral était très mal connu. Et l'Académie des sciences a voulu qu'on ait une bonne connaissance du ciel austral. C'était pas pour la navigation, c'était vraiment c'était de la recherche fondamentale, si vous voulez. Ça n'avait pas d'application pratique. Mais ça existait déjà autrefois, oui. Alors, on a donc envoyé la caille en Afrique du Sud, en 1750. Il a mis 5 mois. Ça vous donne une idée des difficultés de transport. D'abord, il est arrivé au niveau du Cap-Vert et le capitaine du bateau pensait qu'il était à l'ouest du Cap-Vert. En fait, à l'est du Cap-Vert, pardon. En fait, il est passé à l'ouest. C'est vous dire que les longitudes étaient très mal connues à l'époque. Donc la caille, qui s'y connaissait quand même, a rectifié le tir et il a fait passer le bateau où il a compris que le capitaine s'était trompé dans cette détermination de la longitude. Bon. Alors ceci dit, le bateau a eu une avarie et il a fallu réparer à Rio de Janeiro et avant d'atteindre le Cap. Donc ça a mis 4 mois. D'habitude, c'était un voyage de l'ordre d'un mois et demi. Oui, mais là, ils n'ont pas eu de chance. La caille est bien reçue au Cap. Le Cap de Bonne-Espérance, c'était quelque chose d'assez particulier. D'abord, peut-être certains d'entre vous sont allés là-bas. Ce qui est caractéristique, c'est la montagne de la Table, c'est une montagne toute plate, vous voyez. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la tête du lion ici. Et la ville du Cap se trouve à la base. C'est un paysage magnifique. C'est très très beau, le Cap. Alors ça, c'est une image qui est à peu près de l'époque de la caille. Oui. Alors ce n'était pas extrêmement peuplé, et c'était essentiellement peuplé par des Hollandais. Parce que le cap servait en quelque de relais, si vous voulez, au cours du voyage entre la Hollande et l'Indonésie, où les Hollandais récoltaient les épices, clou de girofle et autres, pour le ramener en Hollande. Voilà. Alors, c'était donc il y avait des gens qui y habitaient. Des Hollandais avec des esclaves locaux, hein, parce que il y avait des esclaves à cette époque. Et puis il y avait un grand jardin, et ce grand jardin, là on y cultivait des salades, des légumes pour éviter le scorbut. Oui, le scorbut qui était un drame de la navigation ancienne. Donc là, c'était une sorte de relais. C'était une sorte de relais de la VOC. La VOC, c'était la compagnie hollandaise des Indes orientales. Donc c'était une sorte de relais. Alors la caille est arrivée là, il a été très bien reçu, et il a commencé ses observations. Alors on lui a construit un petit observatoire dont on a pu reconstituer l'aspect d'après les descriptions qu'il en a données. Alors, C'était une simple pièce dehors, qui était au bord de la mer, d'ailleurs. Et il avait à l'intérieur un bureau, un lit, pour ce un lit, et puis trois instruments. Alors, ces instruments, c'était des instruments... On va en parler un peu plus en détail après. C'était des instruments qui permettaient de mesurer essentiellement la hauteur des astres au-dessus de l'horizon et aussi le temps de leur passage, donc les deux coordonnées des étoiles. Alors, il y en avait un grand, un moyen, un petit. Le moyen n'a pas beaucoup servi. Le grand était un instrument magnifique que Lacaille a acquis avec ses propres deniers. On lui avait donné une subvention pour aller au Cap de Bonne-Espérance, et il a utilisé sa subvention pour acheter un magnifique instrument dont on va reparler un peu plus loin. Et puis il y avait un petit quart de cercle. Vous voyez, ça c'était un sextant, parce qu'un sixième de cercle, ça s'appelait un sextant, rien à voir avec les sextants de marine. Et là c'était un octant. Et alors il a fait deux choses différentes. Il a catalogué, il a d'abord mesuré avec précision la position des principales étoiles de l'hémisphère sud, qui était très mal connue. Et ensuite, il a fait une exploration systématique du ciel. C'est la première exploration systématique qui ait jamais été entreprise. Et je vais vous montrer comment il faisait tout à l'heure. Et il a catalogué près de 10 000 étoiles, dont il a mesuré seule la position autour de 127 nuits d'observation. Vous voyez, il ne s'est pas beaucoup amusé. Heureusement, il fait assez beau, en général, au Cap de Bonne-Espérance. Et c'est un climat méditerranéen. Il a fait tout ça en 2 ans. Il est resté 2 ans là-bas. Alors, il a aussi déterminé la distance de Mars, puis en utilisant les lois de Kepler, celles du Soleil, en faisant des observations combinées de Mars par rapport aux étoiles du fond, avec le jeune Lalande qui s'est trouvé à Berlin. Alors, on a une base assez grande, et ils ont trouvé, pour l'appareillage du Soleil, 10 secondes d'arc, plus ou moins une seconde, et la parallaxe est réelle, c'est 8,8 secondes d'arc. Vous voyez. C'était assez bon. C'est des mesures qui sont extrêmement difficiles. Voilà. Alors maintenant, regardons un peu ce qu'on savait du ciel austral avant Lacaille. Alors il y a une magnifique gravure qui est due à Albrecht Dürer, vous voyez, qui montre bien la situation. Alors vous avez un certain nombre de constellations. Où il y avait la baleine ici. Là, c'est le poisson. C'est le poisson. Vous avez la couronne méridionale, etc. Et puis, il y a des grands trous. Il y a des grands trous parce que personne ne s'était jamais préoccupé de ce qui se passait dans ces trous, si vous voulez. C'est plein d'étoiles, bien entendu. Là, vous avez le petit chien, vous avez l'hydre. Celles qui sont près du zodiaque, elles sont bien connues, elles étaient bien connues, puisqu'on les voit même, on voit même de Paris un certain nombre de constellations de l'hémisphère austral. Hein. Mais alors, ce qui était plus au sud, c'était un peu n'importe quoi, disons. Alors, il y avait une très grande constellation qui s'appelait le Argo, le navire, qui était très très grande, et Lacaille l'a divisée en 3. Maintenant, regardez un peu les étoiles. Vous voyez les trous. Vous avez des trous. Ça, c'était un peu plus tard que c'était plus tard que Dürer. Vous voyez. Vous avez des trous, il n'y a pas d'étoiles. En fait, il y en a. Il y en a partout, des étoiles. Donc, il fallait faire... Et en plus, les positions étaient étaient extrêmement mauvaises. Alors, il y a une première tentative pour résoudre le problème ce sont les Anglais qui ont, l'Académie royale anglaise a envoyé Halley, c'est l'homme de la comète, il a fait beaucoup de choses, il a notamment étudié la comète qui porte son nom, mais il a fait beaucoup d'autres choses. On l'a envoyé à Sainte-Hélène en 1677-78. Sainte-Hélène, ça vous dit quelque chose, hein? C'est Napoléon. Napoléon a terminé là. Donc c'est dans l'hémisphère sud. et on l'a envoyé, et il a repéré les étoiles les plus brillantes, il a mesuré leur position, 341 étoiles, avec d'assez bonnes positions. Mais il n'a pas rempli les trous. Il a mesuré les positions des étoiles les plus brillantes qu'il a vues. C'était déjà une première étape. Alors, Lacaille, vous verrez, a complété le travail. Disons qu'il a fait presque tout, en fait. Alors, voilà les instruments dont disposait Lacaille. Ça, c'est un secteur zénital. C'est un instrument très précis pour mesurer les positions des étoiles qui sont près du zénith, comme son nom l'indique. Alors ça, c'est utilisé pour mesurer la latitude. C'est un instrument de topographie, en fait de géodésie, destiné à mesurer la latitude d'un lieu avec précision. Alors là, Lacaille n'en avait pas en Afrique du Sud, mais il l'avait beaucoup utilisé avant, quand il avait fait toute sa géodésie en France. Alors vous avez le sextant pour des mesures précises que Lacaille a payé. Il a payé 2000 livres, équivalent à 11 000 euros. Ce n'est pas une petite affaire, vous voyez. Et il a pratiquement utilisé toute la subvention que l'Académie des sciences lui a donnée pour son voyage pour acheter ce sextant. Alors c'est un instrument magnifique qu'on peut toujours voir à l'Observatoire de Paris. Alors comment ça marche, c'est assez facile. Vous avez une lunette ici, et vous avez un fil à plomb ici, et vous pouvez basculer le quart de cercle comme vous voulez, et vous mesurez l'angle entre la direction de cette lunette et la verticale. Donc c'est un instrument qui sert à mesurer la hauteur d'un astre, ou plutôt la distance zénitale d'un astre. Si vous avez l'occasion de visiter l'Observatoire de Paris, vous retrouverez, c'est assez grand, hein, il fait à peu près 3 mètres de haut. C'est un grand instrument extrêmement précis. Et puis vous avez un quart de cercle qui est plus petit et qui servait essentiellement pour l'exploration systématique du ciel austral dont je vais vous parler maintenant. Alors, les observations de Lacaille, il les a décrites dans un livre en latin, vous voyez, comme c'était à l'époque. Alors, le ciel austral et ses étoiles, observations, etc., des étoiles australes en Afrique et dans le Caput Bonne Espérance, c'est évidemment le Cap de Bonne Espérance. Voilà, ça c'est publié en 1953 quand il est rentré. Alors, pour son exploration systématique du ciel, comment il faisait ? Il visait sur le méridien, donc plutôt en direction du nord, dans l'hémisphère sud. Il était sa lunette fixe et il avait un réticule qui était fait comme ça. Ce réticule a été inventé par Bradley. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a utilisé. Alors, vous pouvez imaginer que les étoiles, comme l'instrument est fixe, les étoiles transitent comme ça. Alors, vous avez des fils. Vous pouvez savoir le temps qu'elles ont mis pour aller de là à là ou de là à là. Donc, vous avez une idée de la déclinaison de l'étoile de cette manière-là. Alors, évidemment... Si elle passe là ou là, ça fait le même effet. Donc, il y a un détrompeur. Cette partie-là est sombre. C'est un détrompeur. Si l'étoile... vous pouvez reconnaître les étoiles, distinguer les étoiles qui passent au-dessus des étoiles qui passent au-dessous. Alors, c'est tout bête, mais ça marche bien. Ça marche bien, ce système. C'était en fait très astucieux. Alors, quelle est la qualité de ces mesures ? C'est simple, les mesures faites avec le... Il a fait donc des mesures d'un certain nombre d'étoiles brillantes avec une grande précision. Et c'est la précision... Il a mesuré les 400 étoiles les plus brillantes de l'hémisphère sud, dont la position était très mal connue, sauf quelques-unes qui avaient été utilisées par, qui avaient été observées par Allais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui n'avaient pas très très bien travaillé. Alors vous, moi j'ai étudié. C'est facile de voir quelle est la précision qui est atteinte par Lacaille de la manière suivante. Toutes ces étoiles sont dans le catalogue Hipparchos, et le catalogue Hipparchos vous donne le mouvement propre de chaque étoile, et vous pouvez faire les corrections habituelles de précession, nutation, etc., et vous pouvez savoir quelle était la position de l'étoile au moment où Lacaille l'a observée, et vous comparez avec ce que lui, il a trouvé. Et c'est comme ça qu'on peut savoir, quelle est la précision de ces observations. Alors, la précision en déclinaison, c'est très bon. Vous avez 0 et 5 secondes d'arc, vous voyez, ici. Et en ascension droite, c'est moins bon. Il y a une erreur systématique qui vient de la chose suivante, c'est que Lacaille a utilisé deux étoiles de référence qu'il essayait d'observer chaque nuit, et il y avait une erreur sur une de ces étoiles de référence. Et c'est pas lui qui l'avait... C'est bête, mais c'est... Il a pris cette position d'étoile de référence. Résultat, vous avez une erreur systématique. Bon, mais ces mesures sont excellentes. Ce sont les meilleures mesures qu'on ait jamais faites à cette époque, avec celle de Römer à Copenhague. Et Römer, c'est celui qui a trouvé la vitesse de découvert la vitesse de la lumière à Paris. Quand il était à Paris, après il est retourné à Copenhague, il s'était monté un observatoire magnifique, mais malheureusement, l'observatoire a été détruit par un incendie après qu'il ait observé 88 étoiles. Et dégoûté, il n'a jamais recommencé après. Donc, mais les mesures de Lacaille sont les meilleures de l'époque avec celles de Römer. Alors, en ce qui concerne le ciel, pour l'exploration du ciel austral, il a observé près de 10 000 étoiles. Alors, c'était avec le réticule que j'ai montré tout à l'heure. Alors, évidemment, c'est moins bon. Hein. L'erreur est de l'ordre d'une demi-minute de degré. Mais ça suffit pour faire des cartes. Hein. Le but n'était pas d'avoir une grande précision sur toutes ces étoiles plus faibles que les étoiles de référence, les 400 étoiles de référence. Alors là aussi, j'ai fait ce travail, vous voyez, à partir des mesures, des observations d'Hipparchos. On pourrait le refaire avec Gaïa, mais on n'aurait pas tellement mieux, en fait. Alors, le résultat, ben, c'est une belle carte, c'est une belle carte du ciel austral. Voilà. Alors, et maintenant, c'est plein, le ciel austral est plein. Et alors, il a défini 14 constellations nouvelles, qui portant des noms d'instruments scientifiques. Et il a aussi, dans son exploration systématique, trouvé de nombreuses nébuleuses, dont il y a même une galaxie dedans, qui est Messier 83. Et il y a un certain nombre de nébuleuses certaines sont des nébuleuses planétaires qu'il a cataloguées pour la première fois. Alors, c'est pas très lisible comme ça, mais je peux vous donner la. Vous trouverez, si vous visitez l'Observatoire de Paris, vous verrez une magnifique carte qui est construite, qui est une peinture, qui est construite d'après la carte précédente, qui est une gravure publiée par Lacaille dans un livre. Et vous voyez donc. Vous voyez toutes les figures des constellations superposées avec les étoiles les plus brillantes qui sont superposées. Alors ça a été peint par Mademoiselle Lejeuneux, celle qui a fait le portrait de Lacaille que je vous ai montré tout à fait au début. Donc ça a été fait sous les instructions précises de Lacaille quand il est rentré à Paris. Oui. Alors ça vaut le coup d'être vu, c'est absolument magnifique. Alors, à la mort de Lacaille, c'est revenu à l'Académie des sciences qui a fait un encadrement un peu style rococo, là, et qui a fini par le donner à l'Observatoire de Paris. Voilà. Alors cette malheureuse, cette Madame Anne-Louise Le Jeuneux a eu une triste fin. Elle avait épousé un aristocrate. Elle tenait d'ailleurs, était elle-même aristocrate. Elle tenait un salon, comme beaucoup de dames cultivées de l'époque. Et son mari a été guillotiné à la Révolution et elle s'est jetée dans la Seine. Elle a fini tristement. Alors, les constellations de la Caille, les voilà. Alors, j'ai gardé l'orthographe, original, si vous voulez. Et vous, ceux d'entre vous qui ont observé dans l'hémisphère sud, vous connaissez certainement ces constellations. Sculptor, Fornax, Horologium, c'est une petite constellation. Alors voilà, c'est les définitions qu'en donne la Caille, l'atelier du sculpteur, le fourneau chimique. Horologium, c'est l'horloge à pendule seconde. Réticulum, c'est le réticule qu'il a utilisé pour sa recherche systématique, vous voyez. Alors, Saelum, c'est le burin. Pictor, chevalet du peintre. Pixis, la boule. Tout ça, c'est encore utilisé à l'heure actuelle. Mais ces constellations, on leur a donné des limites qui sont bien précises, mais ça a été fait vers 1920 par un astronome belge. Avant, les limites n'étaient pas très claires, si vous voulez. Alors, vous remarquez que c'est presque tout des instruments soit d'artistes, soit d'astronomes, si vous voulez, ou de physiciens. Alors, il y a une exception, c'est Mensa, qui s'appelait Mons Mensa à l'origine, et je vais vous en parler parce que c'est une constellation très intéressante. Elle est liée à la montagne de la Table, qui est la montagne qu'on voyait au fond de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, où on voyait la ville du Cap. Alors, vous voyez, ça, c'est les constellations actuelles. Elles sont... On a repris... Ici, on a repris la peinture d'Anne-Louise Le Jeuneux, et puis on a marqué les limitations des constellations telles qu'elles sont, telles qu'on les connaît actuellement. Alors ça, c'est toujours utilisé. Alors là, la constellation de la Table, ça, c'est intéressant. Là, vous avez une image de la ville du Cap. C'est une photo que j'ai prise lors d'un voyage là-bas, où vous voyez que la montagne de la Table est recouverte par une espèce de nuage qui coule. On le voit couler. Alors ça, on voit ça un jour sur deux au Cap. C'est un phénomène qui est presque constant. Vous avez un vent du sud humide qui passe par-dessus la Table et l'eau se condense et forme un nuage qui couvre la montagne. Alors c'est embêtant quand vous allez essayer de monter à sur la montagne de la Table, en général, vous vous trouvez dans le brouillard. Alors, ça, c'est une photo moderne, donc. Alors, la constellation Mons Mensa, elle est faite de la manière suivante. Vous avez ici la montagne de la Table, et ici, vous avez un nuage. Qu'est-ce que c'est que ce nuage? C'est le grand nuage de Magellan. Alors, le grand nuage de Magellan... il a dessiné la constellation de telle manière que vous avez le grand nuage de Magellan, ça fasse un peu ce nuage qui coule sur la table. Et puis vous avez le petit nuage de Magellan qui est là. Là, vous avez une photo, vous avez le grand nuage, vous avez une photo, le grand nuage et le petit nuage. Alors, la Caille a aussi fait il a repéré des objets nébuleux, dont certains sont des amas globulaires, comme 47 Toucanet, par exemple. 30 Doradus, c'est simplement un amas d'étoiles très brillantes. Puis vous avez les NGC sont en général état cariné, c'est un objet très intéressant avec une étoile très très massive et particulièrement jeune. Oméga Centauri, c'est un amas globulaire, mais voyez la résolution de son télescope, qui était tout petit, il avait 5 cm de diamètre, ne permettait pas de voir séparément les étoiles d'un amas, par exemple, d'un amas globulaire. Et puis vous avez, y a une galaxie là-dedans qui est Messier 55. Ça c'est des petits extraits de la grande peinture de Mademoiselle Le Genêt, vous voyez, que j'ai arrangé comme ça. Alors, Lacaille, qui était très courageux, il a fait aussi des mesures géodésiques. Il a fait la première mesure géodésique de l'hémisphère sud. Ça n'avait jamais été fait. Et alors, il a... comment il faisait, je vous ai expliqué, c'est avec des triangles. Vous avez une base qu'il a mesurée avec des règles. Alors, des règles, c'était qui avaient la longueur d'une toise. On les mettait bout à bout. Et puis, à partir de ça, on construisait tous les triangles que vous avez là. Alors, ça va du Cap, la ville du Cap, jusqu'à une centaine de kilomètres au-dessus. Même plus que ça. Oui, 110 kilomètres, mais un degré de méridien. Il a fait un degré de méridien. Et alors, c'était un peu héroïque quand même, parce que comment on se déplaçait à cette époque-là, on se déplaçait en char à bœufs. C'était le moyen de transport habituel en Afrique du Sud à cette époque-là. Et alors, quand on traversait une rivière, le chariot était fait de telle manière qu'il ne coule pas, si vous voulez. Donc, on envoyait les bœufs comme ils pouvaient, à traverser la rivière comme ils pouvaient, ils tiraient derrière le chariot, et le chariot ne sombrait pas parce qu'il était fait pour, il était étudié pour ça. Alors vous voyez, c'était... Et il n'y avait pas de route, il n'y a rien du tout. Il n'y avait absolument pas de route. Donc c'était assez sportif. Il a été... Malgré tout, il a mis que 2 mois pour faire tout ça, pour faire tout ce travail, avec l'aide d'un local et de quelques esclaves qui faisaient les bases bonhommes, parce qu'il y avait des esclaves à cette époque-là, hein, en Afrique du Sud. Voilà. Et alors, c'est historique, parce que c'est la première triangulation qu'on ait jamais faite dans l'hémisphère sud. Elle a été refaite après par un astronome du Cap vers 1840, qui s'appelait McClear. Et lui, il a fait la même chose, mais il a mis 5 mois. Il était moins doué que... Il était moins... Avec des moyens plus modernes, quand même. Il était moins doué que Lacaille, il n'y a pas de doute. Alors, malheureusement, évidemment, comme Lacaille a essayé de combiner ça avec les mesures du Nord pour voir la forme de la Terre, hein, c'était à ça qu'on s'intéressait à l'époque. Alors, malheureusement, sa mesure était un peu erronée, parce qu'il y avait... Les mesures là-haut ont été perturbées par l'attraction de ces montagnes. Ouais. Donc, la fin, c'est pas bon. Toute cette partie-là n'est pas bonne à cause de l'attraction des montagnes que Lacaille avait sous-estimée ou négligée. En fait, il l'avait négligée. Et c'était une erreur, parce que ça perturbe passablement les mesures géodésiques. Voilà. Alors, quand il a eu fini tout ça, ça a pris à peu près 2 ans, voilà qu'il reçoit un ordre du roi d'aller mesurer la longitude et l'altitude de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'était une colonie française, comme son nom l'indique, et c'est l'actuelle île Maurice. Et puis aussi l'île Bourbon, qui est la Réunion. Alors, mais Lacaille n'était pas très content, parce qu'il savait que son ami navigateur, d'après de Manvillette, avait déjà fait le travail, qu'il avait déjà déterminé la longitude de ces deux îles. Mais comment prévenir le roi ? Impossible, les communications, ça mettait 2 ou 3 mois. Donc il était coincé. Alors, ne sachant pas quoi faire, il y est allé quand même, finalement. Il y est allé quand même, et il a dressé d'excellentes cartes de ce que n'avait pas fait, d'après de Mainvillette, il a tracé d'excellentes cartes de l'île Maurice et de la Réunion. C'était les premières cartes dignes de ce nom de ces deux îles. Bon, alors ça lui a pris un certain temps. Il est rentré au Cap après, et puis il a pu rentrer en France. Alors, ce d'après de Mainvillette est un personnage le navigateur qui avait déjà fait le travail, comme je disais, c'est un personnage intéressant. Il a fait un magnifique ouvrage qui se trouve à l'Observatoire de Paris, qui s'appelle le Neptune oriental, qui est en fait la description des différents ports de tout l'océan Indien. Il avait parcouru l'océan Indien dans tous les sens. Alors il y a des descriptions de ports, pas mal d'indications pour la navigation, etc. Voilà ce monsieur. Et il a établi notamment une carte des côtes du Cap. Et donc il avait, comme je vous l'ai dit précédemment, mesuré la longitude et la latitude des îles de France et de l'île Bourbon, de l'île de France et l'île Bourbon. Alors voilà la carte de la Caille à l'île Maurice. Alors il est dit qu'il s'était très fort ennuyé, parce que son voyage ne servait en principe à rien, puisque c'était déjà fait. Le principal, c'était la latitude, la longitude, c'était déjà fait. Donc il a fait une très bonne carte, une très bonne carte, si vous... Je ne l'ai pas comparé aux cartes modernes, mais il paraît que c'est vraiment excellent. Alors il a passé quelques temps à l'Île-de-France, il a passé quelques semaines à La Réunion. Là, il n'a pas fait de carte, et puis il est revenu en France. Alors comme il a beaucoup navigué, la Caille, et qu'il était Et il avait vu que le problème des longitudes était un problème dramatique, qu'on pouvait se tromper énormément sur la position d'un navire en longitude. Il a mis au point une méthode. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, la méthode, mais il l'a vraiment mise au point. C'est déterminer la longitude par l'observation de la distance de la Lune aux étoiles. Alors, si on dispose d'un éphéméride de la Lune pour Paris, on peut connaître l'heure à Paris de l'observation de l'étoile et mesurer l'heure locale, et à partir d'une observation du Soleil, par exemple, et la différence d'heure vous donne la différence de longitude. Alors, c'est une méthode qui a été énormément utilisée avant qu'on ait des très bons chronomètres. Et même quand on a eu des très bons chronomètres de marine, c'est-à-dire ceux de Harrison vers 1780-90, c'était des engins qui étaient extrêmement chers, et la plupart des navigateurs ne pouvaient pas se payer ces chronomètres qui étaient des objets vraiment de luxe. Et cette méthode de la longitude par la position de la Lune a été utilisé jusqu'à au moins 1830 ou 1840 par des navigateurs de seconde importance, ceux qui avaient les moyens, ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer des chronomètres. Voilà. Alors, c'est une méthode graphique qui est parce que la Caille s'était bien rendu compte que les capitaines de vaisseaux n'étaient pas extrêmement cultivés, qu'ils avaient du mal à faire des calculs. Et il a mis au point une méthode graphique qui est très astucieuse et qui a été pas mal utilisée. Vous voyez, c'est vraiment... Il a tout fait, ce gars-là. Voilà. Je crois que... Voilà, alors il a fait un mémoire où il explique tout ça. Et puis... Il est donc rentré à Paris. Alors, il a été, son voyage, il est parti de Lorient, et il est rentré à Lorient, et ça a duré 3 ans et 8 mois, vous voyez, dont 8 mois en mer. Parce qu'il a, c'était lent, hein, les voyages maritimes. Il a commencé par les 5 mois au début, puis après, il y a eu encore 3 mois pour le reste. Le reste a été assez rapide. Il a eu de la chance quand il est allé à la Réunion et qu'il est revenu en France, il a eu de la chance, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Alors, en son retour, il a repris son enseignement, car c'était, paraît-il, un très bon professeur. Il a écrit plusieurs traités et il a continué ses observations. Alors, ses observations, il les a faites avec un instrument plus moderne que les sextants qu'il avait. C'était une lunette, il a acheté avec ses propres deniers, lui encore une fois, une lunette de Dolon, c'est un instrument méridien, vous voyez, c'est pour mesurer le temps de passage d'un astre au méridien. Vous l'orientez est-ouest et la lunette se déplace dans le plan du méridien. Et c'est une lunette achromatique. C'est un des premiers instruments achromatiques. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à 1740-1750 environ, les lunettes n'avaient une lentille simple. Et cette lentille simple avait du chromatisme. Le résultat, c'est que les images étaient assez mauvaises. Et la seule manière de ne pas être trop embêté par le chromatisme, c'était d'avoir des très très longues focales. Et c'est pour ça que vous voyez dans des gravures du XVIIe ou du début du XVIIIe, vous voyez des lunettes qui sont extrêmement longues pour un diamètre relativement petit. Et bien, la raison, c'était que c'était, disons, un peu la seule manière de ne pas être trop embêté par le chromatisme. Alors donc, C'était un très très bel instrument, tout à fait novateur à l'époque. Malheureusement, il a continué des observations. Il a fait un catalogue des étoiles zodiacales. Ça, c'est très intéressant, les étoiles zodiacales, parce que ça permet de repérer avec précision le mouvement des planètes à l'intérieur, aux environs de l'écliptique, si vous voulez. Les astronomes ont mis pas mal d'efforts à faire des catalogues d'étoiles zodiacales. Mais il est mort avant. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des idées. C'est un des rares personnes dont on connaît le salaire, parce que les salaires n'étaient pas. Alors. Vous voyez, les salaires, c'était quand même un type qui était très très connu, hein, qui avait été membre de l'Académie des sciences, etc. Il touchait l'équivalent de 6 000 euros par an. C'était pas. On n'était pas bien riche avec ça. Mais il était logé gratuitement. Il était logé gratuitement à l'institut où il avait, il avait donc toujours son observatoire derrière la coupole de l'Institut. Alors cette lunette, il l'a achetée de ses propres deniers. Alors la fin de la caille est assez triste parce qu'il a été en fait tué par les médecins. Il n'y a pas que dans Molière que ça arrive. Il avait contracté une maladie tropicale dont on n'a pas réellement réussi à savoir ce que c'était. Mais enfin, il était assez malade et on l'a soigné avec des saignées, tout simplement. Alors il en est mort. On l'a tellement vidé de son sang qu'il en est mort. Voilà. Alors, souvenir de la caille. Alors, vous voyez que c'est un type qui était. Il a toutes les qualités. C'est un observateur. Émérite, il était plein d'astuces. Il a fait tout un tas de choses assez variées. Et puis en plus, il était tout à fait désintéressé, si vous voulez. Il a payé de sa poche deux instruments remarquables. Et c'est un Et Delambre en a dit, Lacaille était le calculateur le plus courageux et l'observateur le plus zélé, le plus actif et le plus assidu qui ait jamais existé. Qui jamais ait existé, oui. Donc c'est un personnage fort intéressant. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec lui. Alors il y avait au Cap de Bonne-Espérance cette plaque qu'on avait mis en son souvenir, vous voyez. On this site, l'abbé Lacaille carried out his astronomical observations in the years 1751-1752, vous voyez. Alors c'était une plaque en bronze qui a été volée et qu'on n'a jamais retrouvée. Donc, alors il y a une vague inscription en marbre sur le port de... du Cap, mais enfin, c'est pas ça. Voilà, alors, si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez acheter le livre de Jan Glas. Voilà, Jan Glas, c'est l'auteur l'auteur de ce livre sur Lacaille, que j'ai traduit en français. Et Jan Glas, c'est lui. Là, c'est moi. Et on est devant le fameux tableau du ciel austral de Louise Le Jeuneux. Alors vous, si vous vous connectez sur l'observatoire, vous pouvez avoir plus de détails sur la caille sous la forme d'une exposition qui a été réelle et qui est maintenant virtuelle et qui est dont j'étais commissaire d'ailleurs. Et avec Laurence Bobis, qui était la bibliothécaire de l'Observatoire à cette époque. Donc, moi, vous pouvez regarder ça. C'est pas moi qui ai fait l'exposition virtuelle, mais donc je peux dire qu'elle est très bien faite. Voilà. Bon, ben voilà ce que j'espère. Vous avez pas trop vous avoir intéressé par ce personnage très peu connu finalement.
Bien, merci beaucoup. On a appris des tas de choses qu'on ne connaissait pas, en tout cas moi, et vous probablement aussi. Donc on va d'abord prendre quelques questions dans la salle, et puis après il y a deux ou trois questions peut-être qui viennent des personnes qui nous suivent sur YouTube. Qui a des questions à poser ? Osez. Oui.
Je ne connais pas grand-chose en astrologie, mais en astronomie, excusez-moi. Et, mais vous avez parlé de nébuleuse. Et du coup, à quel moment cette définition est apparue et est-ce qu'elle a évolué du coup avec le temps ?
Quelle définition ?
La définition d'une nébuleuse.
Une nébuleuse, ah !
Est-ce que cette définition, en fin de compte, a évolué avec le temps du Alors, fait de ces découvertes
Au début, du temps de Messier... du temps de Lacaille, avec des instruments assez petits, on appelait nébuleuse un peu n'importe quoi qui n'était pas ponctuel, qui n'était pas une étoile. Donc, dans les échantillons de Lacaille, vous avez des amas ouverts compacts, comme 32 radius par exemple. Vous avez des amas globulaires. Vous avez comme métier 3, et puis vous avez des véritables nébuleuses comme la nébuleuse d'Orion. Mais la nébuleuse d'Orion, elle n'est pas dans le catalogue de Lacaille parce qu'elle était très bien connue avant. Alors ça s'appelait quand même des nébuleuses, et ça s'appelait des nébuleuses. Le terme doit être en. Je pense qu'il est du 17e, c'est 17e siècle, je pense. Je pense que c'est 17e siècle, mais c'était très mal défini. Hein, c'était tout ce qui était ponctuel. Alors, Messier a fait quand même très attention. Il n'a pas mis dans son catalogue d'amas globulaires ni d'amas ouverts. C'est vraiment soit des nuages de gaz et de poussière, plus ou moins ionisés en général, soit des galaxies. Là, il ne faisait pas la différence entre les galaxies et les nébuleuses gazeuses, ce qu'on appelle maintenant les nébuleuses gazeuses, si vous voulez.
Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, parce que ça faisait partie de mon cours sur les galaxies que j'ai fait plusieurs années, les galaxies, la définition d'une galaxie, effectivement, comme un ensemble de quelques millions ou quelques milliards d'étoiles, elle a vraiment été donnée dans les années 1920. Donc jusque-là, nébuleux, voilà, c'est Hubble. Donc il y a eu Edwin Hubble qui a commencé à mesurer les distances des galaxies. Et grâce à ça, il a pu montrer qu'il y avait des objets qu'on pouvait appeler galaxies, qui étaient vraiment des ensembles d'étoiles complètement extérieurs à notre galaxie, et puis des objets qu'on pouvait continuer à appeler nébuleuses, qui étaient des nuages de gaz dans notre galaxie.
Il y a eu des grandes controverses à l'époque. Il y a eu des grandes controverses pour savoir si ces objets étaient en dehors de notre galaxie ou dedans. Et voilà. Il a fallu que Hubble trouve des travaille sur les céphéides de Messier 31, la nébuleuse d'Andromède.
Voilà, donc ça a demandé pas mal d'années, puisque la CAI, c'était bien avant Hubble, dans les années 1920.
Bah, ça n'intéressait pas grand monde, assez curieusement. La CAI est le premier qui a fait une espèce de... Allais a fait une espèce de catalogue aussi d'objets nébuleux qu'il avait vus à Sainte-Hélène. Puis dans l'hémisphère nord... Je n'ai pas trouvé de trace d'un truc avant Messier de catalogue digne de ce nom, si vous voulez.
Non, c'est toujours de Messier qu'on parle. Non, c'est... Oui. 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 Attendez, il y a une question là-bas. Après, ce sera vous.
Merci, Jam, pour cette super présentation. J'ai appris un tas de choses. En fait, je me demandais si, comme tu disais, que c'était la première carte australe, en fait, des étoiles dans l'hémisphère sud. Quel a été l'impact ensuite de cette carte, en fait ? Est-ce que ça a été utilisé ou est-ce que...
Ah si, ça a été important. Ça a été important. Par exemple, quand... comment ça s'appelait John Herschel... John Herschel a fait une étude assez complète de l'hémisphère sud, plus complète que celle de la CAI, mais il le cite tout le temps. Enfin, ça a eu un impact important. Okay.
Merci.
Et John Herschel, donc il a poursuivi le travail de la CAI en prenant en observant des étoiles moins brillantes.
Oui, alors lui, il a quand même trouvé davantage, il avait un grand télescope.
Oui, donc
c'est le fils, hein, c'est pas William. Hein. Oui. C'est John Herschel. Bah, il avait des instruments beaucoup plus importants que ceux de la CAI. Et il avait en particulier un des télescopes de son père qui était assez important, qu'il avait emmené dans l'hémisphère sud. Et donc il a en particulier fait un catalogue d'objets nébuleux très 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 supérieur à celui de la CAI.
Oui.
Oui.
Oui, merci pour cette conférence. Oui, c'est juste une remarque. Moi, je m'intéresse beaucoup au nom des rues de Paris. Je suis là, juste ici. Et dans le 14e arrondissement, le 5e arrondissement, il y a beaucoup de noms de rues relatives à des astronomes.
Oui.
Le Verrier, Herschel, etc., Huygens. Et dans le 17e arrondissement, il y a la rue Lacaille.
Oui, voilà. il y a une rue Lacaille. Il a laissé un certain souvenir. Et il y a un monument dans son village natal, là, dans les Ardennes. Il y a un monument.
Ah oui. Et la rue Lacaille, elle se trouve où, dans le 17e ?
Guy Boquet.
D'accord. Mmh. Ah, c'est très bien.
Voilà.
Donc, merci pour cet exposé qui m'a beaucoup intéressé parce que j'avais lu par ailleurs le livre sur la mesure de méridien en Équateur.
Ah bah oui. Ah oui, il est très amusant, de Florence Tristram. Là.
Exactement.
Ah, il est très bien, ce bouquin.
Très bien. Ouais. Et j'avais juste une question. Là, quand vous avez parlé de la mesure de latitude, de longitude dans la région du Cap, qui était entachée d'erreurs à cause de l'attraction des montagnes, oui, vous avez dit. Oui, est-ce que vous pouvez un peu expliquer la contribution ?
Ben, c'est la latitude qui est fausse. Parce que la latitude, vous mesurez la hauteur d'une étoile par rapport à la verticale locale. Et si L'étoile, ce sont des étoiles de référence dont la position est très bien connue, hein, qu'on utilise pour ça. Mais alors si, donc, si la verticale locale est mauvaise, vous pensez que vous n'êtes pas à la vraie latitude.
D'accord. Vous voyez ? Donc c'est l'effet de l'altitude locale.
C'est la latitude qui est affectée. L'altitude est affectée par l'attraction des montagnes. La longitude, c'est... Bon, ça déforme un peu les triangles, mais c'est moins grave. Mais c'est la latitude qui souffre beaucoup.
D'accord, merci.
Alors ça, c'était très bien. Ça a été très bien connu après. Ça a été beaucoup expliqué. Par exemple, Maskelyne, qui était l'astronome royal d'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, il avait étudié très bien l'influence, l'attraction d'une montagne qui se trouvait en Écosse, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et il avait justement vu comment ça affectait les mesures de latitude. Mais c'est après la caille. Hein. Ça, c'est 1780.
On va peut-être terminer par une question qui vient de YouTube. Donc, Magellan et Vasco de Gama connaissaient le ciel austral avant Monsieur de la Caille. Donc, ce terme de découvreur n'est-il pas usurpé ?
Mais non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais le titre est...
Non, mais c'était pas le premier à le voir, mais c'était
non,
le premier
non,
à
c'est pas le premier, mais c'est le premier, à faire une exploration systématique.
Absolument.
Parce que le... Non, mais le ciel austral était connu des premiers navigateurs, Magellan, par exemple.
Voilà.
Ou même de Serre de... Mais vous savez, les explorateurs, ils étaient très terre-à-terre. Ouais. Ils avaient quelques étoiles qui leur servaient de repère, puis le reste, ils s'en fichaient complètement.
Oui, c'était pas ça qui les intéressait.
Donc, c'est pas étonnant que le ciel austral ait été très mal connu.
Oui. Bien, eh bien, rendez-vous le 4 février pour la prochaine conférence. Et encore, excellente année 2025 à toutes et à tous. Bonsoir. Merci.